France Inter.
À la une de l'écologie, Justine Prado, aujourd'hui, vous nous parlez des trains de la colère qui sont venus hier à Paris.
Oui Mathieu, vous avez sûrement entendu parler de cette mobilisation assez originale qui a eu lieu mardi. Des centaines d'élus, des syndicalistes et des citoyens sont montés dans les trains de la ligne Clermont-Ferrand-Paris et de la ligne POLT qui relie Paris à Orléans, Limoges et Toulouse. Ils se sont rendus à Paris pour faire entendre leur frustration face à la dégradation de ces lignes qui sont connues pour leur retard fréquent, leurs pannes et leurs dysfonctionnements à répétition. Alors je ne sais pas si vous avez déjà emprunté ces lignes, mais je vous assure que rester coincé dedans plusieurs heures en pleine canicule sous 35 degrés, ça a de quoi vous marquer. Et si ça sent le vécu, c'est sûrement parce que c'est le cas.
Okay.
Concrètement, ces deux lignes sont très défectueuses, alors même qu'elles desservent des départements parmi les plus ruraux et enclavés du pays. Et les usagers dénoncent un véritable abandon de l'État dans ces territoires. Donc pour Vert, notre journaliste Emma Conquet, qui vit justement dans le Lot, elle est montée dans le train hier matin très tôt à Cahors pour suivre ce périple jusqu'à la gare d'Austerlitz à Paris. Et elle a récolté des témoignages de nombreux citoyens venus dénoncer en fait une France à deux vitesses, où les habitants de ces zones un petit peu reculées trinquent deux fois plus que les autres et peinent à se déplacer en train.
Et donc, l'État ne fait rien, Justine ?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Vendredi dernier, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, s'est rendu à Clermont-Ferrand pour discuter de la situation. Il a reconnu que le service n'était clairement pas à la hauteur et promis quelques gestes tarifaires, mais vraiment pas de quoi convaincre les usagers pour le moment. Dans le détail, la SNCF a aussi lancé un programme de modernisation de ces deux lignes vieillissantes il y a quelques années et annoncé des investissements de près de 3 milliards d'euros d'ici à 2027. Mais le remplacement de ces vieilles rames a été plusieurs fois retardé. Et les citoyens qui sont mobilisés jugent que ces financements devraient être au moins doublés pour qu'ils soient vraiment efficaces.
Alors, j'imagine que ce ne sont pas les seuls problèmes.
Non, et globalement, cette situation elle est surtout révélatrice d'un enjeu plus grand. Aujourd'hui, le train souffre d'un gros manque d'investissement en France. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Autorité de régulation des transports. Cet organisme public qui est chargé de contrôler le bon fonctionnement économique des infrastructures de mobilité a relevé en décembre dernier que les financements étaient insuffisants au regard des besoins de maintenance et d'investissement du réseau et que globalement l'offre ferroviaire avait tendance à se dégrader en France. Sauf qu'au-delà de la modernisation essentielle de ces lignes de train, qui est comme on l'a vu un sujet dans plusieurs régions, les investissements sont nécessaires pour adapter le ferroviaire aux impacts du changement climatique. Car le train, on le sait, c'est un allié de taille dans la lutte contre le dérèglement du climat. Il transporte des passagers et des marchandises pour des émissions de CO2 modiques par rapport à d'autres moyens de transport, et le tout en désenclavant des territoires. À titre d'info, un trajet Clermont-Paris, c'est 127 kg de CO2 par passager en avion, soit 45 fois plus qu'en train, où c'est seulement 3 kg. Mais ça, c'est seulement quand il fonctionne bien, le train. Et pour l'instant, l'adaptation, ça reste un gros angle mort des politiques ferroviaires, alors même que le train souffre déjà des inondations, des tempêtes ou des vagues de chaleur, et que ça va surtout pas aller en s'arrangeant. Alors avec tout ça, il serait peut-être temps de se remettre sur les rails pour éviter de foncer dans le mur.
Merci beaucoup pour cette conclusion, Justine Prado. On peut retrouver donc le reportage de votre collègue, qui est monté dans le train de la colère hier, avec votre site vert.eco. Merci beaucoup. À vous, on termine comme tous les jours avec vos messages. C'est l'heure du répondeur.
Bonjour, c'est Valentine, porte-parole de Viouv, une coalition d'organisations écologistes des Pyrénées-Orientales. Je vous appelle de Perpignan. Et chez nous comme ailleurs, le soleil a rendez-vous avec la thune. En effet, par choix du moindre coût et pour une rentabilité maximum, les panneaux photovoltaïques au sol se multiplient dans les espaces naturels au détriment des habitants et de la biodiversité. Et pourtant, ce ne sont pas les terres déjà artificialisées qui manquent, surtout chez nous. Il est donc temps d'ouvrir le débat sur le déploiement à marche forcée de cette technologie verte sous couvert d'écologie. Faire une première réunion publique a lieu ce soir, 16 avril, au Nautilus à Perpignan. Alors venez nombreux vous informer pour rester maître des territoires où vous vivez.
Bonjour la Terre au Carré, Jérôme Delallier. Département dans lequel est prévue la réalisation d'un projet d'extraction et de conversion de lithium. Un projet qui interroge tant au niveau de son intérêt écologique que par la façon dont celui-ci est imposé par les pouvoirs publics. En effet, l'année dernière, en pleine commission de débat public, M. Macron annonçait le classement du projet en projet d'intérêt national majeur. Et de nouveau, Quelques mois plus tard, en pleine consultation publique sur la réalisation des usines pilotes, c'est l'Union européenne qui l'intègre dans sa liste des 47 projets stratégiques. Alors devant autant de mépris des populations et de déni de démocratie, des organisations politiques, syndicales et associatives s'organisent en un collectif. Un premier événement aura lieu le jeudi 17 avril à 20h à la salle des fêtes de Désertine, à côté de Montluçon, qui s'intitule « Le lithium de la mine à l'usine ». Nous vous attendons nombreux et nombreuses à Désertine. Au revoir à tous.
Bonjour, je suis Aurélie de Villeurbanne. J'aimerais vous alerter sur le passage à l'acte de notre cher président du département, Christophe Guillotot, qui a coupé 80 000 euros de subventions à France Nature Environnement, à la Ligue pour les oiseaux et à Arthropologia, suite à leurs propos qui interrogent et qui critiquent le projet de voie fluviale à Anse pour du tourisme fluvial dans un endroit où il y a des zones humides avec beaucoup de biodiversité à protéger. Je tiens à préciser qu'il s'est montré très critique et méprisant face à ce qu'il qualifie de danseur aux pieds nus, mangeur de graines qui se déplace à vélo. Bonne journée, au revoir.
Merci pour vos appels et vos messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45. Merci beaucoup à Raphaël Rousseau qui était à la technique aujourd'hui, Jérôme Boulet à la réalisation. Et puis pour les réseaux sociaux, Jean-Philippe Verret et Théophile Massad. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de l'émission si vous souhaitez retrouver les vidéos de nos invités.